Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Dernière fin de semaine d'avril 2024, ici Alex Baillargeon, et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAC 88.3, Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec. Vos radios universitaires préférées. Non, mais il s'en passe-t-il des affaires pareilles? Grosse semaine! C'est le cas de le dire. On est resté bête dans certains cas. On a eu des révélations dans d'autres. Et on a eu des gens de conviction qui ont changé de place également. Si je fais référence à Éric Lefebvre, ancien whip de la CAQ qui gardera son salaire de l'Assemblée nationale pourra éventuellement se présenter pour le Parlement à Ottawa. L'ancien gardien de la CAQ a décidé de claquer la porte. Quand pourtant, il était dans les quelques-uns qui étaient à peu près sûrs de conserver leur siège, ou en tout cas, ça allait être un petit peu serré, mais il était quand même bien parti. A claqué la porte, a décidé de s'en aller du côté conservateur fédéral. Non, pas Éric Duhem, qui aurait été ben trop heureux. Non, non. Ça va rejoindre l'équipe Poilievre pour la prochaine élection. Donc, passer de faire plus ou moins grand-chose au provincial pour aller faire plus ou moins grand-chose au fédéral. Félicitations, Éric Lefebvre. Surtout au sens où, en ce moment, les conservateurs, comme ils raflent à peu près tout, seront majoritaires et seront majoritaires avec beaucoup de monde. Ce qui fait en sorte que si Éric Lefebvre pensait atteindre le Conseil des ministres fédéral, il risque d'être un petit peu déçu. Il y en a d'autres avant lui, dans l'équipe Québec, qui vont y passer, qui vont avoir plutôt un ministère avant lui, notamment Pierre Paulus, le bras droit de l'équipe Québec de Pierre Poilievre, qui risque de devenir ministre bien avant Éric Lefebvre. Enfin bref. Il compte sur le fait qu'il est très apprécié dans sa région. Autrement, il y aura une élection partielle qui va coûter un peu plus de 300, si c'est pas 4, si c'est pas 500 000 $ aux contribuables québécois, parce qu'il a décidé de quitter après seulement 2 ans de mandat, parce que l'élection fédérale arrive imminemment. Donc, plutôt que de démissionner la semaine avant, il décide de démissionner entre 6 et 12 mois et peut-être 15 d'avance. Mais encore une fois, il restera à l'Assemblée nationale québécoise tout en faisant peut-être la promotion du fédéral. Quoique, il n'aura pas particulièrement beaucoup de temps d'antenne à l'Assemblée. Quoique, on verra si justement il continue à être présent à l'Assemblée nationale ou s'il aura cette job-là en attendant que la prochaine arrive. Des gens de conviction. D'autres dont les convictions, on n'est pas certain. Éric Gérard, ministre des Finances, à qui on a demandé allez-vous rester si. Allez-vous faire le saut, vous aussi, au Parti conservateur? Et il n'a pas clairement dit non, je ne ferai pas le saut. Il a dit dans la vie, il faut se garder les options. Non, non, non. Très, très vague. très, très vague. Donc, un autre qui pourrait débarquer de la chaloupe en train de chavirer de la CAQ, Éric Gérard, Geneviève Guilbeault non plus, n'est pas à dire qu'elle ne fera pas le saut du côté fédéral. Quoique, peut-être qu'elle pourra faire le saut lorsqu'elle aura fini de fouiller dans sa sacoche. Image qui a été marquante cette semaine également, Geneviève Guilbeault qui fouille dans sa sacoche en répondant malgré tout au député Joël Arsenault du Parti québécois de l'Île-de-la-Madeleine qui la questionnait sur son bilan au, précisons-le, ministère des Transports et de la Mobilité durable. On y reviendra. Donc, tout en fouillant sa sacoche, en prétextant chercher un document, mais tu sais, elle a fouillé dans sa sacoche 10 minutes. Fait que, blague à part, 3 minutes peut-être, mais c'est très long, son fouillage de sacoche, et qui donne l'impression, encore une fois, que Geneviève Guilbeault est un petit peu au-dessus de ses affaires, là, tu sais, elle fouille dans ses affaires, puis ben oui, là, ministère des Transports, puis tout ça, puis blablabla, puis nanana. En fait, Geneviève Guilbeault voudrait que ça redevienne le ministère de la voirie, comme à une autre époque, que, qu'elle soit la reine et maître des routes du Québec, parce qu'elle a dit que ce ne devait pas être du ministère de s'occuper du transport en commun. Alors que, semble-t-il, c'est elle qui aurait fait rajouter « et de la mobilité durable » dans son titre. Donc, son ministère est devenu « la mobilité durable ». Mais dans son cas, à elle, finalement, ça ne tente plus. Au sens où là, elle dit que ce n'est pas une mission du ministère de s'occuper du transport en commun, mais qu'elle devrait uniquement s'occuper des routes. Donc, elle, c'est asphalter la 20, asphalter la 40, asphalter la 10. Merci, bonsoir. Elle n'a plus rien d'autre à faire. Ça pourrait supposer qu'elle pourrait un moment donné arriver peut-être avec transport. Non, ça existe déjà, Transport Québec. Elle pourrait arriver avec Autoroute Québec, un peu comme Santé Québec, un peu comme le tableau de bord de l'éducation de Drainville. Donc, autant Christian Dubé et Bernard Drainville qui se délaissent de leur fonction de ministre. Peut-être que Geneviève Guilbeault, elle aussi, veut arriver avec un tableau de bord du transport au Québec pour qu'elle s'occupe d'asphalter des routes à la place et qu'elle se trouve un Top Gun en transport pour que celui-ci, à sa place, s'occupe du transport au Québec et que cette personne-là sera payée 4 fois le salaire de la ministre, comme ça va arriver en santé, comme ça pourrait arriver en éducation, c'est bien parti. Fait que voilà, des gens de conviction. Et pourquoi la mobilité durable n'intéresse plus Geneviève Guilbeault? Ça va pas super bien niveau mobilité durable. Comme les oppositions l'ont rapporté, aucun projet n'a été mis en chantier par la Coalition Avenir Québec, quoiqu'ils ont terminé des projets, effectivement, mais qui avaient été lancés sous les précédentes administrations. Et encore là, est-ce que c'est gage de succès de juste signer et de couper le ruban? Pas nécessairement. Le REM à Montréal, ça va, mais l'expansion qui devait avoir lieu dès l'année dernière, 2023, évidemment, a été repoussé à 2024 et a finalement été repoussé à 2025 parce qu'on s'en fout du transport en commun avec la CAQ. Et ça, c'est un des problèmes, probablement, que justement le ministère des Transports et de la Mobilité durable dise que ce n'est pas à eux de gérer le transport en commun. Et elle a tenté, Geneviève Guilbeault, de se justifier en disant que ce n'était pas à elle de régler les déficits et de s'ingérer dans chaque commission de transport et nanana. Donc, ce n'était pas à elle de gérer ça. C'était ça qu'elle voulait dire. Effectivement, là-dessus, on peut lui donner le point. Ce n'est pas à Geneviève Guilbeault de s'occuper de la Société des transports de Sherbrooke, de la Société des transports de la capitale, de s'occuper de la Société des transports de Montréal, etc., etc. Effectivement, ce n'est pas à elle de faire ça. Mais après ça, sa job en tant que responsable de la mobilité durable, ça devrait être de rendre ça accessible au sens où ça devrait être de sa part, de elle, que ça devrait venir, les initiatives en transport en commun, que justement, on valorise le transport en commun, non pas en disant « Occupez-vous des routes, je vais m'occuper des autoroutes. » Non, 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 non. C'est de faire la proposition et de faire surtout des initiatives qui vont encourager le transport en commun. Elle dit qu'elle ne veut pas s'occuper des projets particuliers les uns après les autres. Elle a quand même giflé le maire de Québec en lui enlevant le projet de tramway en disant « Moi, m'en occuper, moi. » Si c'est pas s'ingérer directement dans les compétences des villes, dans les sociétés de transport à même les villes, c'est bien Geneviève Guilbeault qui retire le projet de tramway à Bruno Marchand. Fait qu'on ne s'ingère pas quand on ne veut pas s'en occuper, finalement, pour Geneviève Guilbeault. Effectivement, ce n'est pas non plus au ministère des Transports seul à éponger la dette de tous les de toutes les sociétés de transport qui ne vont pas bien. Parce que pas d'achalandage, parce que la pandémie a changé les habitudes de travail et tout ça et tout ça. C'est sûr, ça fait partie de la job. Mais après ça, de dire qui s'arrange avec leurs troubles, qui diminue leur offre, qui enlève des transports, qui change les routes, que les autobus passent aux heures, bien évidemment, ça fait en sorte que les gens ne vont pas vouloir utiliser le transport en commun. Mais après ça, évidemment, ça c'est le serpent qui se mord la queue, parce que s'il n'y a pas d'offre, les gens vont prendre leur char. Si les gens prennent leur char, les gens ne prennent pas l'autobus. Les gens qui ne prennent pas l'autobus, ça fait qu'il n'y a plus d'offre. Évidemment. Il n'y a pas de bonne solution. Mais s'il y avait des initiatives de la part d'un ministère du transport et de la mobilité qui, justement, valorisait, encourageait, permettait que les gens s'en servent plus, les gens iraient. Mais parce que, justement, on ne le valorise pas. On dit « prenez votre char, ça prend un troisième lien à 10 milliards dans le fleuve pour que les autos passent plus vite de l'ouest à l'ouest de la ville. » Tu sais, évidemment que ça n'encouragera pas le monde à prendre l'autobus. Mais par la suite, et ça, c'est comme je dis, c'est le serpent qui se mord la queue. Il n'y a pas de service, les gens ne le prennent pas. Les gens ne le prennent pas, il n'y aura pas de service. Fait que où est la solution miracle? La question est lancée. Hein? Quelle serait la solution miracle? Mais évidemment, on ne peut pas faire en sorte que tout le monde, du jour au lendemain, prenne l'autobus. Évidemment que ça ne se pourra pas. Parce que là, ça créerait l'effet inverse, puis il y aurait trop de monde dans les autobus, évidemment. Mais quelle est la solution? La question est lancée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens soient plus enclins à aller prendre l'autobus et le transport en commun? En général, parce qu'évidemment, là, dans le cas présentement de Québec et Sherbrooke, c'est surtout des autobus quand on parle de transport en commun. Mais il a failli y avoir un tramway à Québec. Quoique, la caisse de dépôt est supposée arriver. Geneviève Guilbeault va réapparaître dans un tailleur zébré ou peu importe pour dire finalement les conclusions du rapport que sera soumis par la Caisse de dépôt qui va dire que oui, un tramway, ce serait important, quoique c'est pas certain. Parce que encore une fois, si on se fie à la gang de Québec, soit Bernard Drinville, dans son cas, lui, il souhaite ardemment que ça soit un troisième lien, parce que sinon, il va perdre son siège. Mais de toute façon, en ce moment, peu importe ce qui va arriver, il va perdre son siège. On parlera des sondages, d'ailleurs, dans le projet segment, parce qu'il y en a eu deux cette semaine qui se sont un petit peu contredits et qui a fait en sorte qu'on a un peu levé le point d'interrogation de « qu'est-ce que ça veut nous dire, ces deux sondages qui ne veulent pas tout à fait dire la même chose et qui, évidemment, ont deux conclusions différentes. » Mais juste avant, c'est sorti ce matin, je m'excuse aux directions de programmation respectives parce que je vais l'aborder. Patrick Provost, en microbiologique et infectiologue en immunologie du département de l'Université Laval, s'est fait finalement mettre à la porte. Pendant la pandémie et jusqu'encore récemment, il remettait évidemment en question l'utilisation des vaccins contre la COVID et avait depuis accumulé les suspensions de l'Institut universitaire. Le couperet est finalement tombé. Il est officiellement mis à la porte de l'Université Laval. Évidemment, l'université se garde de commenter davantage, prétextant que le contenu du dossier personnel d'un employé ou d'un employé confidentiel. Patrick Provost s'est fait suspendre de l'université à de multiples occasions après avoir tenu publiquement, littéralement publiquement et sur les réseaux sociaux, des propos anti-vaccins et notamment sur le vaccin ARN messager. Des collègues avaient adressé des plaintes contre lui à la direction de l'établissement, puisqu'il se servait de son titre de professeur de l'Université Laval pour aller sur tous les podcasts et vidéoconférences de complotistes pour dire que le vaccin n'avait pas de bon sens, nanana, participait à des conférences payées avec son titre de l'Université Laval pour dire que c'est un professeur qui se sert de son titre. Et ça, d'ailleurs, on avait eu un reportage là-dessus dans les dernières semaines de justement ces véritables spécialistes de la santé, des véritables médecins, des véritables chercheurs. La France en a une multitude. On a ici au Québec aussi avec Patrick Provost, qui se servent de leur titre pour se donner une crédibilité, pour dire des âneries, pour dire n'importe quoi. Parce que justement, ce qu'on lui reprochait, c'était de sortir dans les réseaux sociaux sous le prétexte qu'il est un professeur en microbiologie, pour dire que le vaccin ARN, c'est dangereux, quand dans les faits, la communauté scientifique s'entend pour dire que non, l'inverse, et que dans son cas, lui, il n'est pas microbiologiste en vaccin. T'sais, il ne travaille pas dans le domaine précis de la santé. Lui est de l'autre science, c'est dans la recherche. Donc, son expertise en ARN messager, zéro pin bar. Mais parce que c'est un scientifique, ben lui, il se donne la crédibilité. Donc, lorsqu'il va déblatérer son charabia sur les réseaux sociaux, ben il va se servir de son titre. Et malheureusement, pour lui, maintenant, il va pouvoir être le martyr, professeur radié de son université, etc., etc., l'ancien professeur de l'université, mais il ne pourra plus parler au nom de l'Université Laval parce que son titre a été révoqué. Il n'est plus chercheur à l'Université Laval. Et ça, c'est une bonne chose. On s'arrête là-dessus. Au retour, on continue à parler d'actualité de la semaine. Comme je le disais, on parle de ces doubles sondages qui ne donnent pas tout à fait les mêmes résultats. Vous écoutez le 88.3 CFAQ à Sherbrooke et chez 94.3 à Québec. Ah, voilà, un petit peu d'harmonica pour finir. De retour au deuxième service, Auguste. 3 jours en hiver, c'est à peu près ce qu'on a eu cette semaine. À peu près 2-3 jours d'hiver de neige. De neige par rapport qui a tout refondu. Parce que de toute façon, cette fin de semaine-ci, on annonce des températures au-dessus de 15 degrés. Fait que merci, bonsoir la neige, peut-être. Il reste encore une petite possibilité, mais on espère que ça va plus aller vers le chaud quand même. On arrive en mai, pour vrai. Voilà, les sondages cette semaine. On a eu 2 sondages qui sont sortis à une journée d'intervalle qui donnaient 2 sons de cloche assez différents. Habituellement, ici à l'émission, j'aime ça énormément regarder les sondages, mais là, ça donnait une lecture quand même assez différente. Évidemment, quand on analyse les résultats de sondage, là, on se rend compte de peut-être quelle a été ce qui a fait la différence au niveau des résultats. Mais c'est quand même intéressant à regarder parce que 2 conclusions peuvent être vues dans ces 2 sondages-là. Alors, Palace Data et Léger Marketing. Léger, bien connu à Montréal, au Québec. Le Palace, qui est la nouvelle maison de sondage qui part depuis l'Ontario, mais qui est en collaboration avec l'actualité, le journal, l'actualité. Donc, si Léger est avec le journal de Montréal, le journal de Québec, Palace est avec l'actualité. Sur les chiffres sur lesquels ils s'entendent, à plus ou moins un, bien sûr. C'est le Parti québécois, 34 chez Léger, 33 chez Palace. Québec solidaire, 14 chez Léger, 13 chez Palace. Les conservateurs, 10 chez Léger, 11 chez Palace. Donc pour ça, c'est stable pour ces trois partis-là. Par contre, là où il y a des points de dissension qui sont quand même assez importants, c'est la deuxième position. Parce que dans un cas, la deuxième position est occupée chez Léger à 24 par la CAQ, mais chez Palace à 23 pour le Parti libéral. Oh, oh, oh! Donc, ça veut dire que chez Palace, la CAQ tombe à la troisième position avec seulement 20%, et chez Léger, le Parti libéral reste à 15%. Donc, avec Palace, on observe un plus 8 chez les libéraux par rapport à la moyenne habituelle. Parce que depuis les derniers sondages, le Parti libéral se situe à 15-14-15-14 et la CAQ chute de 4 points en tombant à 20. Qu'est-ce que ça veut dire pour Palace? Parce que Léger, dans son cas, il reste à peu près dans la moyenne. Et ça, c'est subséquemment au discours de Paul Saint-Pierre Plamondon que le Québec va mourir si on ne fait pas le troisième référendum. Dans le cas de Palace, on est à peu près dans les mêmes dates. Mais, et là, le point important, c'est qu'on a interviewé peut-être un petit peu plus de gens anglophones du côté de Montréal. Donc, qui, par conséquent, est plus avantageux pour le Parti libéral que la CAQ, bien sûr. Parce qu'à Montréal, s'il y a un parti qui n'est pas spécialement bien représenté, c'est la coalition Avenir Québec, qui est seulement sur la pointe, mais qui n'est pas dans le Grand Montréal, dans le centre-ville de Montréal. C'est partagé entre libéraux et Québec solidaire. Ce qui veut dire que dans le cas de Léger, comme on est maintenu, tout est normal et rien à signaler, pas de changement. On peut dire que tout le monde se maintient. Il n'y a pas de gain majeur ou il n'y a pas de chute drastique. Tandis que du côté de Palace, si on dit que les libéraux remontent à la deuxième place et que la CAQ s'effondre à la troisième, mais dans le cas de Palace, on peut dire que, ah oui, la CAQ est vraiment en très grande difficulté. Mais c'est lorsqu'on regarde le noyau qui a été interviewé, dans le cas de Palace, c'est surtout des appels téléphoniques. Donc, comme à la... je pense des appels automatisés. Donc, bonjour, ici Palace Data. Pour la prochaine élection, voulez-vous voter 1 pour le Parti libéral, 2 la CAQ, 3, tu sais, ainsi de suite. Pour quel parti voteriez-vous? Voteriez-vous à la prochaine élection. Et voilà, donc le résultat a fait en sorte que le Parti libéral a été un petit peu plus avantagé. Mais dans le cas, bon, de celui de Léger, comme on est dans les mêmes statistiques, comme on est dans les mêmes chiffres qu'auparavant, bien, on ne peut pas vraiment sortir une majeure différence, ou du moins, on n'aura pas de grosses différences. Et ben ça reste, encore une fois, le Parti québécois qui a la grosse avance, malgré les déclarations fleuves de Paul Saint-Pierre Plamondon et de son attitude de soupe-au-lait, comme on aime le dire dans son opposition à lui, parce que, oh, il est prompt à répondre, puis, oh, il pogne les nerfs facile, le petit Paul. Fait qu'on va appuyer sur ce bouton-là pour encourager le fait que, oh, il est prompt à répondre. Fait que, mais tu sais, à part de ça, si, justement, dans les seules choses qu'on peut reprocher à Paul Saint-Pierre, c'est de s'emporter rapidement et de faire de grandes envolées lyriques et le Québec n'existera plus après une troisième défaite et qu'on va tous mourir, nous, francophones, et nanana. Tu sais, à part ce bout-là, ça va très bien pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Tu sais, il est quand même capable de faire parler de lui, tout en étant la troisième opposition, et ce, de manière beaucoup plus régulière que peut l'être Québec solidaire, parce que du côté de solidaire, justement, ça stagne, voire ça perd des plumes un petit peu. Ça regarde pas, ben, ça regarde pas bien, et ça regarde bien, parce que, ben, ça regarde bien, plus ou moins, parce que ça fait pas de plus. En ce moment, Québec solidaire stagne, des élections arrivent demain matin et on a à peu près le même tableau au niveau solidaire, quoique on perd quelques plumes à Montréal, mais on en récupère du côté de Saint-François ici à Sherbrooke, que c'est au coude à coude avec le PQ. Et en Abitibi, où justement la nouvelle co-porte-parole, Émilie Lessant-Terrien, pourrait retrouver son siège d'Abitibi parce que, justement, effondrement du vote de la CAQ et remontée du Parti québécois. Donc, l'autre Abitibi et, je pense, c'est Témiscamingue, eux, tomberaient dans le camp péquiste, tandis que ce serait favorable pour la deuxième Abitibi, pour Émilie et elle qui récupère son siège. Mais où ça coûte des points, c'est à Montréal, où c'était un peu plus serré à Laval. Donc, on se maintient avec 12, 13, 14 députés pour Québec solidaire, mais pas encore de gains. Pas de grande perte majeure, quoique c'est vrai, il y a Sol Zanetti aussi à Québec qui est en danger dans sa circonscription. Seul Étienne Grandmont résisterait à la vague bleue péquiste. Et Éric Duhaime qui pourrait faire des gains malgré tout. Si on ne sort pas voter en bloc contre lui, évidemment, comme la dernière fois, mais ce n'est pas complètement impossible. Mais justement, effondrement du vote de la CAQ, les deuxièmes et troisièmes places remontent de manière drastique. Où la job n'est pas gagnée pour Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est l'appui à la souveraineté. S'il y avait un référendum pour ou contre la souveraineté du Québec, même si votre choix n'est pas encore fait, auriez-vous tendance à voter pour ou contre? On vote pour à seulement 36% des cas. Évidemment, que ce soit pour le Bloc ou pour le PQ, ça vote quand même 3 sur 4 pour la souveraineté. Seulement 3 sur 4 dans les rangs du Bloc et du Parti québécois. Et évidemment, on vote contre à 53% au global, où on vote contre le plus grandement. C'est du côté, évidemment, libéral provincial, où on vote à 99% contre. Donc, c'est assez clair. CAQ et QS votent à 58 et 56% respectivement contre la souveraineté. Donc, ce n'est pas gagné, quand même que Paul veut faire son référendum à sa première victoire. Présentement, c'est 36 à 53. Ce n'est pas chose faite. Même on est plus proche des résultats du premier référendum que du deuxième avec des chiffres comme ça. Mais évidemment, il y aura tout le cirque médiatique et de tous les camps qui vont vouloir faire pour ou contre la souveraineté qui va s'enclencher. Mais pour l'instant, ce n'est pas chose faite. Donc, à venir, à voir ce que ça donnera. Mais pour l'instant, les chiffres sont pas de son bord niveau souveraineté, mais les chiffres sont de son bord niveau tassons la CAQ. C'est une nuance qui est quand même assez importante. On s'arrête quelques instants au retour à la suite de ce deuxième service, ici même sur les ondes de CFAQ 80.3 et de CHIS 94.3. Penchant de Valence, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de CHIS. Carte trop facile à jouer, mais que malheureusement Bernard avait dans son jeu cette semaine. Jean-François Roberge aussi est pas mieux. Donc, et Drainville et Roberge reprochent maintenant aux demandeurs d'asile d'angliciser les corridors d'école, rien de moins. Préoccupé par la place grandissante de l'anglais dans certaines écoles francophones, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, n'exclut pas la possibilité de pénaliser les élèves qui ne parlent pas français en classe. Rien de moins. Les groupes d'experts qui se penchent sur la refonte du programme de français, je vais leur demander de réfléchir à ça, a-t-il déclaré lundi en début de semaine. L'anglais s'impose entre les murs de certaines écoles francophones. Ce serait le cas à Vaudreuil-Dorion. Les élèves ne voient tout simplement plus la nécessité de parler français, même en classe. Une situation qui force les profs de français à sévir en leur enlevant des points au bulletin pour la communication orale. Ce qu'on voudrait faire, on voudrait pénaliser des étudiants parce qu'ils parlent anglais en leur enlevant des points sur le bulletin. On est rendu là. Interrogé à savoir si les règles en place pourraient être modifiées pour s'assurer que les élèves parlent bel et bien français en classe, le ministre Drainville a affirmé que cette avenue sera étudiée. On va y réfléchir, ce n'est certainement pas exclu. Il faut juste s'assurer que ce soit la bonne façon, que ce soit la bonne manière de les inciter, pas juste à parler, mais à aimer le français, à avoir le goût d'apprendre et à leur parler au quotidien. C'est sûr que de leur enlever des points sur leur bulletin, ça va les encourager à vouloir parler français, c'est écœurant. Drainville a rappelé qu'une révision du programme de français est en cours, pilotée par un groupe d'experts qui utilise notamment la possibilité d'utiliser davantage d'œuvres culturelles québécoises pour enseigner le français, blablabla. Bla, bla. Voilà où ça devient intéressant. Le ministre Drainville a affirmé que l'anglicisation observée dans certaines écoles secondaires peut s'expliquer par... le trop grand nombre de demandeurs d'asile qui arrivent au Québec puisque le réseau scolaire n'a pas les ressources pour les franciser correctement. J'ai beaucoup d'élèves que je dois franciser que je ne peux même pas inscrire parce que je n'ai plus de classe. Je manque d'enseignants. Si on n'est pas capable de franciser les nouveaux arrivants et si la première langue vers laquelle ils se tournent est l'anglais, ça crée un environnement dans l'école où à des moments l'anglais prend le dessus sur le français. Et Bernard Drainville demande par la bande à Ottawa de diminuer l'afflux de demandeurs d'asile arrivant au Québec en les répartissant de façon plus équitable dans les autres provinces du Canada. Quel jeu dangereux que joue la CAQ depuis plusieurs semaines. Et là, ça se transporte dans les écoles. Combien de fois on a entendu dire la CAQ dire que c'était la faute des demandeurs d'asile s'il n'y a plus de logement au Québec? C'est la faute des demandeurs d'asile si ça va parler plus anglais à Montréal. Et là, c'est rendu que si les élèves ne parlent plus français dans les corridors d'école, c'est à cause des demandeurs d'asile. Quelle pente glissante! Et en même temps, comme je le disais, c'est une carte beaucoup trop facile qu'utilise la Coalition Avenir Québec de tout mettre sur le dos des demandeurs d'asile. Oui, il y en a peut-être beaucoup. Oui, on ne peut pas toutes leur donner des cours de français en même temps. Mais de dire que ce sera de leur faute qu'à Montréal, on ne parlera plus français ou que dans les écoles, on ne parle plus français en ce moment. Ça fait 3 semaines, 1 mois que les demandeurs d'asile, tu sais, ça fait peut-être plus que ça, mais tu sais, la dernière vague de demandeurs d'asile qui sont tous arrivés en même temps ou dans la province, ça fait même pas 1 an. De dire que c'est entièrement de leur faute si les jeunes ne parlent pas français. Come on, Bernard! Quel jeu dangereux que joue la Coalition Avenir Québec. Et justement, si c'était uniquement un cas isolé, non. Il n'y a pas de logement au Québec parce que les demandeurs d'asile ont besoin de tous être logés. Est-ce qu'à la base, il n'y a juste pas assez de construction? De mettre ça sur le dos du fait que soudainement, on a une rentrée de gens. Attention, là. Oui, il y a des questions à se poser sur la mise en chantier. Mais après ça, dans cette mise en chantier-là, est-ce qu'on fait des logements que les gens vont pouvoir aller rester dedans? Ou on fait des logements qui vont partir à 2 300$ le mois pour une construction neuve? Donc, par conséquent, des logements que, de toute façon, les demandeurs d'asile n'auraient même pas été capables de se payer. Est-ce qu'il y a assez de construction de logements abordables? Là devrait être la principale question. Pas parce que devant le fait accompli qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés en même temps, qu'on ne peut pas les loger. Ah, c'est de la faute du fédéral. Ah, c'est de la faute des demandeurs d'asile. C'est trop facile de tout blâmer sur le nouvel arrivant, sur l'immigrant, parce que de toute façon, il ne parle pas français. Attention. Est-ce que ça veut dire que parce que soudainement, la CAQ voudrait qu'on accueille uniquement des Français demandeurs d'asile ou des francophones, allons-y un petit peu plus large, que ça va faire en sorte qu'on va pouvoir loger tous ces demandeurs d'asile francophones? Bien sûr que non! Il n'y a pas de logement abordable! Pour les cours d'école, si les jeunes ne parlent pas français, c'est quoi le contenu qu'ils consomment en dehors de l'école? Est-ce que c'est du contenu francophone ou du contenu anglophone? Est-ce que c'est de la faute des demandeurs d'asile qui ne parlent pas français si les jeunes Québécois d'aujourd'hui ne parlent plus français dans les cours d'école? Ben non, là. Quel raccourci facile et désagréable de la part de la CAQ. Mais encore une fois, est-ce qu'on est vraiment surpris? Non. La Coalition Avenir Québec joue sur cette carte-là. Oh, le français, on ne parlera plus français d'ici une couple d'années à cause des demandeurs d'asile, à cause du fédéral, parce qu'on n'a pas les pouvoirs en immigration. Mais encore une fois, évidemment que le Canada ne donnera pas une douane au Québec pour que le Québec puisse admettre qui il veut. Ça reste le territoire canadien. Et ce n'est pas non plus en déclarant l'indépendance du Québec que, miraculeusement, on va pouvoir loger tout le monde et tout le monde va parler français. Ce n'est pas miraculeux de même. Mais de tout mettre sur le dos des nouveaux arrivants, c'est une pente glissante que la CAQ utilise parce que son public cible aime ça, casser du sucre sur le dos de ce monde-là. Je sais pas. Mais Drainville et Roberge, dans ce dossier-là, jouent à un jeu dangereux de dire que c'est toute de la faute des nouveaux arrivants parce qu'ils ne parlent pas français d'un niveau que le ministère accepte pour dire que ça, c'est un français correct et qu'il ne sera pas tenté de vouloir parler en anglais. Le QLF, eux-mêmes, ont sorti un sondage pour dire, des résultats d'une enquête pour dire que le français, dans la langue commune, dans la langue de tous les jours, au magasin, etc., se parlait davantage, et ce, par des anglophones et des allophones aussi. Ils tentaient de parler davantage en français. Mais la CAQ s'entête de prendre les statistiques de parler français à la maison, qui ça, oui, diminue un petit peu. Mais est-ce que ça fait en sorte que le français dans le Québec au complet va mourir parce que un petit peu plus de familles entre eux ne parlent pas français, mais que lorsqu'ils vont dans des magasins, vont quand même parler français? Je soulève la question, mais de lancer de la bouette sur le dos des immigrants nouvellement arrivés parce que c'est de leur faute si on ne parlera plus français, ça, c'est inacceptable comme défense. Et malheureusement, la CAQ est là-dedans. Mais de twister les chiffres pour leur faire dire ce qu'ils veulent à leur avantage parce que ça ne parle plus français à la maison, c'est pas une vraie statistique de l'inquiétude du français. C'est ici dans la langue de tous les jours, si dans les magasins, on parlait de plus en plus anglophone en anglais, c'est sûr que ça serait inquiétant. Le bonjour hi qui est encore de retour cette semaine, justement parce qu'on dit un petit peu plus hi que d'autres choses. C'est pas ça qui fait en sorte que ça devient problématique. C'est si après ça, en parlant avec le commis, il ne répond pas en français. Là, ça peut être un petit peu inquiétant. Mais est-ce que ça va être 100% des magasins que tous les vendeurs et vendeuses ne parlent pas français à Montréal? Bien évidemment que non. Retour au deuxième service, Loïc April, qu'on vient d'entendre en musique. Allons du côté de l'international, ça, pour conclure l'émission cette semaine. On apprenait... En fait, on se souviendra plutôt du côté de l'Équateur, début janvier, qu'il y avait eu une prise d'otage en direct à la télévision sur une chaîne publique. Crise spectaculaire sans précédent en Équateur. des hommes armés qui avaient fait irruption en après-midi sur le plateau d'une télévision publique à Guayaquil, au sud-ouest de l'Équateur, qui prenant brièvement en otage des journalistes et des employés de la chaîne de télé. « Ne tirez pas », de crier une femme au milieu des coups de feu, tandis que les assaillants munis de pistolets, de fusées à pompe et de grenades frappaient les personnes terrorisées et les forçaient à se mettre au sol. Ils sont entrés pour nous tuer, mon Dieu, protégez-nous, envoyé un correspondant de l'agence France-Presse dans un message WhatsApp. L'un des journalistes qui était captif, au milieu des coups de feu, la diffusion des images s'est poursuivie en direct pendant de longues minutes, malgré l'extinction des lumières sur le plateau et la caméra immobile, jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre et que la police intervienne. Ce qui s'est passé, la crise a débuté le dimanche précédent, donc on est toujours début janvier, avec l'évasion d'Adolfo Macias Fito, 44 ans, le chef des Choneros, gang d'environ 8000 hommes, selon les experts, qui est devenu le principal acteur de trafic de drogue florissant en Équateur, souvent décrit comme l'ennemi public numéro un, soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat de l'un de ses des principaux candidats à la présidentielle en août 22. L'homme s'est évaporé d'un établissement à haute sécurité dans le vaste complexe de Guayaquil, où il purgeait depuis 2011 une peine de 34 ans. De prison pour crime organisé, trafic de stupéfiants et meurtre. Il s'était précédemment évadé en 2013 d'une prison à haute sécurité et avait été repris 3 mois après. C'est arrivé encore une fois, il avait réussi à s'évaporer encore une fois plus récemment au début de l'année et il a été, en fait, c'est-tu lui? Non, c'est l'autre chef qui a été arrêté cette semaine, d'où pourquoi on arrive à la nouvelle du 22 avril dernier. L'autre chef d'un important gang en Équateur, qui était lui aussi en fuite depuis plus de 3 mois, accusé d'organiser une tentative d'attentat contre le procureur général, a été capturé lundi cette semaine. Colon Pico, dans un secteur de Puerto Quito, un petit village environ 160 km au nord-ouest de Quito, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Selon le parquet, 4 autres personnes, dont la sœur de Colon Pico, ont été arrêtées et des armes ont été saisies dans la même opération. Dans l'après-midi, 2 corps démembrés ont été retrouvés dans le nord de Quito et encore indiqué le parquet dans un communiqué. Fabrico Colon alias Pico, Capitaine Pico, est l'un des chefs des Los Lobos, donc c'est l'autre des principaux gangs du pays impliqués dans le narcotrafic. Il s'était évadé de prison le 9 janvier, peu après son arrestation, par la police qui le suspectait de préparer un attentat contre la procureure générale Diana Salazar. 2 des personnes arrêtées ce jour-là avaient participé à son évasion. C'était au même moment, voilà, d'une autre évasion, celle d'Adolfo Macias, alias Fito, du pénitencier de Guayaquil au sud-ouest. Donc, c'était au nord et c'était au sud en même temps. Cette évasion-là avait donné le signal d'une vague de violence sans précédent pour les gangs et par les gangs dans les prisons, dans les rues. Fito, dans son cas, est un des criminels les plus dangereux du pays qui est toujours en fuite, donc on ne l'a pas retrouvé dans son cas. Le président Daniel Noboa, élu en novembre, avait déclaré le pays en conflit armé interne et avait déployé l'armée pour neutraliser une vingtaine de groupes criminels. Près d'une quinzaine d'hommes politiques, maires, responsables locaux ou procureurs ont tous été assassinés. Donc, conflit sans précédent, c'est le cas de le dire. Dimanche, jour d'un référendum sur la sécurité, le directeur d'une prison de l'Ouest a été tué par balle. Vendredi, c'est un maire qui a été exécuté, le deuxième en 3 jours. Donc, ça ne va pas particulièrement bien du côté de l'Équateur. Justement, avec ces chefs-là qui sont en liberté. Mais de toute façon, même s'ils n'étaient pas en liberté, les gangs restent quand même actifs. Donc pour ça, ça aidait un petit peu, mais pas tant. Nous savons tous que Colon Pico signifie « il est devenu un symbole ». Ce qu'il signifie, « il est devenu un symbole du crime organisé », a déclaré le ministre de l'Intérieur, la ministre de l'Intérieur, Monica Paleccia, se félicitant de cette arrestation. Le peuple nous a parlé de manière claire et concise et nous a dit que sa priorité était la sécurité. Nous y travaillons. Tout ça en référence à un référendum qui a approuvé 9 propositions du président Nouba pour lutter contre la criminalité. Donc, bonne chance aux gens de l'Équateur. C'est le moins qu'on puisse dire, qu'on peut leur souhaiter. Mais ça reste encore assez nébuleux. Beaucoup de crimes de ce côté-là. Donc, peut-être réussiront-ils à trouver l'autre chef. C'est là que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Deuxième Service. Ici même, sur les ondes de CFAQ 80.3 et de CHIZ 94.3. À la semaine prochaine. Salut.